Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers messieurs les abbés, mes bien chers frères, lorsque nous entrons dans une église, comme Saint Bruno par exemple, nous voyons à quel point nos regards convergent vers l'autel et le tabernacle. Et si vous regardez bien ici, même les statues du cœur, de part et d'autre, sont tournées vers ce centre. Voilà l'une des expressions visibles de la fête de ce jour. Jésus-Christ est le roi et le centre de l'univers et des cœurs. Mes bien chers frères, c'est en méprisant cette vérité, en méprisant leur roi, que les individus et les nations voient et verront toujours se réaliser la prophétie d'Isaïe. Ceux qui abandonnent le Seigneur seront réduits à néant. De tout temps, ces prophéties se sont vérifiées, mais leur vérité éclate chaque jour à nos yeux. En se séparant misérablement de Jésus-Christ, leur Sauveur, les hommes tombent dans l'abîme du mal. Et c'est pour la même raison que sont frappés d'une stérilité à peu près complète tous les programmes que les hommes peuvent échafauder sans le Christ. En excluant Dieu de la législation et des affaires publiques, l'autorité temporelle a perdu son origine et sa source. En conséquence, les lois des hommes ont perdu leur pouvoir sacré et le droit ses principes souverains. Même aux yeux des philosophes païens, parce qu'il s'agit là d'une vérité d'abord naturelle et pas d'abord religieuse, même aux yeux des philosophes païens comme Cicéron, les lois justes ne peuvent en effet dériver que de la loi éternelle de Dieu. Et de fait, nous le comprenons, si le Créateur est proscrit, on ne voit plus comment on peut demander aux hommes de fuir le mal et de mener une vie honnête pour qu'ils contribuent à la prospérité publique. Sur quelle base, sur quel fondement pourra-t-on leur demander cela? Alors, mes bien chers frères, attention pour autant à ne pas méconnaître l'équilibre de la foi catholique dans les relations qui sont entre le spirituel et le temporel. Car la doctrine sainte de l'Église n'est pas une théocratie comme dans l'islam ou le judaïsme, dans lesquels la loi civile devrait être dissoute dans la loi religieuse. En effet, l'enseignement traditionnel de l'Église n'amoindrit pas l'autorité de la société, qui est légitime dans sa sphère, qui est le bien commun temporel. Fondée sur une juste relation entre la nature et la grâce, le concours de l'Église permet à la société civile d'apporter aux hommes une aide puissante pour atteindre leur fin dernière, qui est le bonheur éternel. Ainsi, l'Église doit éclairer, inspirer, fortifier le pouvoir temporel pour le rendre plus à même d'assurer le bonheur des citoyens. Certes, l'Église ne se reconnaît pas le droit de s'immiscer sans raison dans la conduite des affaires temporelles et purement politiques. Mais pour autant, l'intervention de l'Église est légitime quand elle cherche à éviter que la société civile tire prétexte de la politique, soit pour restreindre les biens supérieurs d'où dépend le salut éternel des hommes, soit pour nuire à leurs intérêts spirituels par des lois iniques. L'intervention de l'Église dans la société civile est encore légitime lorsqu'il s'agit pour elle de lutter contre l'atteinte portée à la constitution divine de l'Église ou lorsque la société civile foule aux pieds les droits de Dieu lui-même dans la société. Mais bien, chers frères, puisque l'on a renié ces préceptes équilibrés, sains de la sagesse chrétienne, il n'y a donc pas lieu de s'étonner que les germes démoniaques finissent par produire la violence et le sang. Il n'y aurait donc pas grand-chose à attendre d'une paix civile qui soit seulement artificielle et extérieure. Ce qu'il faut, c'est une paix qui pénètre les cœurs, qui les apaise et les ouvre peu à peu à la charité. Et une telle paix, mes bien chers frères, ne saurait être que la paix du Christ qui règne dans l'intime des âmes. Il ne saurait donc y avoir aucune paix véritable tant que les hommes ne suivront pas fidèlement les enseignements, les préceptes et les exemples du Christ dans la vie publique comme dans la vie privée. Tel est le sens de cette vérité et de cette fête, le Christ est roi. Chers amis, il apparaît ainsi clairement que le moyen le plus efficace de travailler au rétablissement de la paix, c'est de restaurer le règne du Christ. Cette restauration sera avant tout et toujours le fruit d'une sainteté renouvelée. Et c'est pour que nous n'oublions pas cela que le pape Pie XI a voulu que la fête du Christ roi fût célébrée juste avant la fête de la Toussaint. C'est en effet d'abord à la prière, source de la sainteté. La prière personnelle et commune, c'est cette prière qui réalise d'abord et avant tout le culte dû à la royauté du Christ et qui nous donne, par la puissance de la grâce, la capacité de le réaliser au quotidien dans nos vies. Mais bien, chers frères, le règne du Christ n'a pas besoin de grands discours. Il a besoin d'un peuple à genoux. Alors, telle est notre prière ardente en ce jour. Que Jésus-Christ règne d'abord sur nous et tous les hommes par ses enseignements, sur nos cœurs par la charité et sur toute notre vie par sa loi et ses exemples. Que Jésus-Christ règne ensuite dans nos familles, cette institution sacrée si bafouée, où l'autorité doit refléter la paternité divine et où les enfants doivent imiter l'obéissance de Jésus. Que Jésus-Christ règne enfin dans la société pour qu'elle reconnaisse que c'est de lui que dérive l'autorité et ses droits, ce qui confère au pouvoir temporel sa mesure et à l'obéissance des citoyens son caractère impératif et sa grandeur. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.